Caïman, c'est aussi bientôt 22 ans d'existence.
Ben, l'avenir des applications, ben, pour moi, il est tout simplement énorme. Hein.
Si je résume,
du coup.
D'accord, merci.
Podcast, prise 1, 2.
Bonjour à tous, donc je suis Aurélie, chef de projet digital au sein de l'agence Caïman. Donc, c'est une agence qui est située à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on vous propose un podcast qui va être entièrement dédié à toutes les questions qu'on nous pose sur la création d'une application. Donc, on a compilé les meilleures questions de tous nos clients. Et on vous propose aujourd'hui, avec Jérôme, donc, qui est développeur iOS senior chez nous, d'y répondre.
Eh bien, salut Aurélie et bienvenue à tous nos auditeurs.
Alors, pour commencer, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta mission chez Caïman ?
Oui, ben je m'appelle donc Jérôme, je fais du développement iOS depuis 12-13 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé en fait du développement Objective-C avec iOS 2, donc ça remonte à très longtemps. Et j'ai sorti ma première application sous iOS 3, et puis depuis ben, je continue mon petit chemin sous le développement Apple. Et donc je suis chez Caïman depuis 6 ans maintenant. Je fais essentiellement du développement au forfait. J'ai travaillé pour différents clients comme Vivendi, Canal+, Cityway, Veolia. Donc voilà, des grosses boîtes, des petites boîtes, des petits projets, des gros projets. J'ai fait un peu tout.
Dans tout le jargon mobile, on parle d'applications natives, applications hybrides. On va faire un petit focus sur l'application native. Est-ce que tu peux nous éclairer et nous expliquer ce que c'est ?
Alors, ce qu'on appelle des applications natives, ce sont des applications qui sont développées avec un langage qui va être spécifique à la plateforme sur laquelle on va déposer l'app. Donc, on va avoir par exemple le langage Objective-C ou Swift pour iOS. On va avoir le Java et puis maintenant le Kotlin pour Android. Ça va être des applications qui sont considérées, lorsqu'elles sont bien codées, bien entendu, comme rapides, robustes, au plus proche de l'expérience utilisateur. C'est les applications, entre guillemets, de meilleure qualité qu'on puisse proposer à un client.
On entend aussi parler, donc, ce que je disais tout à l'heure, d'applications hybrides, d'applications web. Mais c'est quoi la différence ?
Alors en fait, il y a trois grandes classes d'applications. Donc il y a l'application native, comme je l'ai dit, qui est développée avec un langage spécifique. On a du coup à l'autre extrémité du spectre, on a ce qu'on appelle l'application web ou le site web responsive, qui est plutôt une adaptation d'une expérience utilisateur web au format mobile. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les applications hybrides. Alors, il y a eu des tonnes et des tonnes d'itérations de langages différents, PhoneGap, React Native, compagnie, qui sont des applications qui permettent de développer une app dans un langage particulier et ensuite de la déployer soit sur iOS, soit sur Android, etc. On est censé produire un code et ensuite le distribuer sur différentes plateformes.
Souvent, les personnes n'arrivent pas à faire la différence entre une application web et un site web responsive. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ?
Oui, alors en fait, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Un site web responsive, c'est simplement l'adaptation d'un site web au format mobile. Donc, on va retailler les éléments, les repositionner pour que du coup, sur un écran plus petit, on ait les données qui s'affichent. Du coup, ça reste un site web, on a besoin d'une connexion Internet pour afficher tous les éléments. À l'opposé, entre guillemets, une application web, ça va un peu utiliser le meilleur des deux, c'est-à-dire que ça va garder quand même tout le cœur de l'application, c'est entre guillemets une page web responsive, et par coup il y a des fonctionnalités qui vont être ajoutées, qui permettent par exemple de sauvegarder toutes les données en local. Donc une application web, tu vas pouvoir par exemple la mettre sur ton bureau et la lancer même si tu n'as pas de connexion internet. Alors qu'un site web responsive, il faut que tu contactes le serveur pour pouvoir afficher ton application.
Donc toi, tu es plutôt spécialisé en développement iOS.
Oui.
De ton point de vue, tu penses qu'il vaut mieux développer du coup une application iOS ou Android pour une entreprise ?
Ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Si tu veux avoir de la présence et toucher un maximum d'utilisateurs, il faut forcément être présent sur les deux plateformes puisque Android quand même représente 70% du marché, dernier chiffre, donc tu peux pas les laisser de côté non plus. A contrario, par contre, si ton but c'est faire de l'argent avec une application, bah, il va peut-être falloir plutôt cibler le public iOS, qui lui par contre est un public qui classiquement va dépenser de l'argent pour des jeux ou des abonnements. Donc ça va dépendre surtout de quel est ton but final.
Du coup, tu penses qu'il vaut mieux développer une application native, hybride ou web app pour une entreprise ?
Alors encore une fois, ça va dépendre du projet, du but souhaité pour les applications, si c'est simplement une présence ou un service qui est proposé ou ce genre de choses. Les grandes différences, on va dire qu'il y a, l'application native, entre guillemets, ça reste la plus chère puisqu'on va avoir deux développements distincts. Par contre, on va proposer une expérience utilisateur qui est extrêmement proche des habitudes utilisateurs iOS et Android. Des choses bêtes, par exemple, un bouton retour sur iPhone, il est en haut à gauche, alors que sur Android, il y a un bouton en bas directement sur le téléphone. Donc, tu peux pas forcément faire les mêmes écrans. Donc, si tu proposes un design Android à des utilisateurs Apple, ils vont pas être super contents. Donc, t'as un développement qui est fiable. T'as aussi accès à la totalité des fonctionnalités d'un téléphone, ce qui n'est pas le cas avec les autres applications. Après, donc, à l'autre bout du spectre, t'as le développement web. Donc là, le parti pris, c'est de dire, on n'a pas forcément beaucoup de budget, on fait une appli pour pouvoir la mettre de partout, ce qui peut être une solution intéressante pour des petites applications, je sais pas, de la boutique en ligne, des petits trucs comme ça, ça peut très bien fonctionner sous forme d'appli web, avec toutes les limitations que ça a, notamment la sécurité, la rapidité, c'est quand même beaucoup moins rapide, même s'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits à ce niveau-là. Et ensuite, entre les deux, tu as donc les développements hybrides. Donc, comme je te disais, il y a eu beaucoup d'itérations avec à chaque fois le développement hybride va remplacer le natif, c'est l'avenir. Écoute, moi, depuis 13 ans que je fais ça, j'ai jamais vu un développement hybride remplacer le développement natif. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des cas, je pense, où le développement hybride a vraiment son intérêt. Quand tu développes des applications pas spécialement très complexes ou que tu veux fournir un service au client, mais tu vises une réputation numérique, tu peux avoir des applications hybrides qui sont très bien, qui sont robustes, qui vont vite. Il y a énormément de progrès qui ont été faits à ce niveau-là. Maintenant, les applications hybrides peuvent recevoir des notifications push, ce qui n'était pas le cas sur les web apps aussi d'ailleurs, ce qui a été pas le cas pendant très longtemps. On a accès à beaucoup plus de fonctionnalités, donc ça peut être une solution envisagée.
D'accord. Bon, d'après ton discours, tu es quand même plus pro application native.
Moi, c'est mon boulot depuis 13 ans, donc je vais pas te dire non, c'est pas bien natif, quoi. Ça reste la, c'est toujours pareil, enfin, c'est entre guillemets la Rolls-Royce du développement. Enfin, toujours pareil, il vaut mieux une bonne application hybride qu'une mauvaise application native.
D'ailleurs, Jérôme, développer une application, ça prend du temps?
Tout dépend de l'application. Si c'est pour faire un répertoire téléphonique, ça peut aller assez vite. Après, tout dépend. C'est quand même quelque chose qui est relativement, enfin pas chronophage, mais qui si tu veux faire les choses bien, bah, avec l'expérience, ça va de plus en plus vite. Mais ça prend quand même du temps de tout bien poser. Je sais que moi, avec l'expérience, je développe pas forcément beaucoup plus vite que ce que je faisais avant. Si quand même, je développe plus vite, mais pas, c'est pas non plus drastique, comme tous les métiers. Hein. Ça prend relativement du temps. Après, si on a un client qui arrive soit avec une idée déjà bien posée, ou alors on l'accompagne entièrement dans la création de l'application. Le tout surtout, c'est d'avoir un projet qui a vraiment des bases solides en disant voilà ce qu'on veut, voilà comment on le veut. À partir du moment où on sait vraiment comment on va rendre l'appli, c'est plus facile et plus rapide à développer que lorsqu'on tâtonne et qu'on cherche les choses et qu'on se retrouve à changer complètement un workflow à la dernière minute, par exemple.
Je vais essayer de basculer un petit peu sur ce que tu fais chez Caïman. Ouais. Donc, on sait que tu travailles sur un gros projet qui est assez complexe. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, expliquer les temps forts de ce développement?
On est parti sur un développement, sur un cycle de projet au tout départ, en tout cas assez classique de cycle en V, qui est entre guillemets la façon de développer la plus stricte, puisqu'elle permet pas trop d'écart, mais en même temps, c'est quand même assez pratique en tant que développeur d'avoir ce genre de choses. Donc, cycle en V avec spécifications fonctionnelles, techniques, on développe, on fait des recettes, etc. comme on est quand même dans un monde qui est extrêmement agile et où il faut changer beaucoup les choses, on va dire que c'est un espèce de mix entre un cycle en V et un cycle agile avec des, voilà, avec à chaque livraison des itérations, on va changer des choses quand même pour être suffisamment souple. Donc voilà, c'est un gros client pour qui j'avais déjà bossé. On fait du temps réel, on a du, justement du socket, du de la géoloc, on va sûrement introduire de la téléphonie à l'intérieur en VoIP, on a de la communication Bluetooth. Sympa comme projet.
Socket, c'est peut-être un terme un peu barbare pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, le socket, c'est en fait un canal qui est ouvert entre deux terminaux. Donc ça peut être n'importe quel type de terminaux. Et c'est ce qui va par exemple permettre de faire du chat. Lorsque tu vas faire du chat, tu envoies un message. Tu t'attends à ce que la personne en face le reçoive de suite et elle, quand elle t'écrit, tu t'attends à le recevoir de suite.
Ce type de fonctionnalité, ça serait possible sur une application hybride ?
Oui, bien sûr, application hybride, application web aussi. Hein. Tu as du chat sur les sites web, donc ça reste un protocole de communication particulier, on va dire. Après, il faut, voilà, faut pas faire n'importe quoi, faut pas mettre du temps réel à toutes les sauces, quoi. Ça a un certain coût. Tu gardes un canal qui est ouvert, même s'il n'y a pas une utilisation batterie qui est phénoménale, mais il faut quand même faire les choses comme il faut, quoi. Il n'y a pas toutes les applications qui ont besoin de temps réel.
Et une fois que tu as développé l'application, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le suivi, du coup, post-développement?
Alors, qu'est-ce qui se fait? Alors, je vais surtout te parler de qu'est-ce qui se fait pas et qui devrait se faire, je pense. Un des gros écueils souvent qui est rencontré par les clients, c'est qu'on va avoir un client qui va prendre une appli, il reçoit son appli, il est très content, elle marche bien, il la met sur le store. Et en fait, derrière, pendant 2-3 ans, il fait absolument aucune évolution dessus. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, il revient en disant, ah ben, tiens, je veux rajouter ça, juste un petit truc, tu vois, ça coûte pas grand chose, on le fait vite fait. Et puis, en fait, derrière, quand tu reçois le cahier des charges, eh ben, t'as toute la mise à jour de l'application qui doit être faite par rapport aux mises à jour du langage, qui peut être assez conséquente. Et ça m'est arrivé de devoir réécrire entièrement des applis, quasiment, parce que le langage avait vraiment beaucoup changé. Donc, le conseil que je pourrais donner, aux clients, aux futurs clients, ou quel que soit le client chez qui vous allez, n'hésitez pas à prendre simplement ne serait-ce que 3 jours, 2-3 jours de maintenance évolutive par an pour que votre application soit mise à jour et qu'on suive les évolutions du langage et de l'OS. Il vaut mieux avoir 2-3 jours par-ci par-là que se retrouver au bout de 3 ans avec une application à réécrire parce que là, pour le coup, il y a tout qui a changé.
Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur un de tes projets ?
Ben, le premier, à la limite, que j'ai fait, j'étais, donc avant de faire du développement mobile, du coup, je faisais du développement lourd en C++ SQL. J'ai acheté mon premier Mac suite au conseil d'un collègue qui m'a convaincu en me disant que le Mac, c'était une expérience utilisateur et pas juste un OS. Et il avait entièrement raison. Quand j'ai eu le Mac, mon premier Mac, du coup, j'ai mis une demi-journée à comprendre comment ça marchait. Après, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est facile, il suffit d'aller au plus simple. Et c'était le cas. Le fameux bouton démarrer pour Windows pour éteindre, c'est une grosse blague en général, mais c'est vrai que c'est assez parlant. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Sauf que j'avais aucune expérience là-dedans et j'ai rencontré un gars qui avait une idée assez novatrice à l'époque. Donc, faut savoir que ça, c'était en 2010. Il voulait proposer une application qui permettait de donner les menus des restaurateurs autour de soi en étant géolocalisé. Donc, ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Maintenant, c'est hyper banal comme truc, mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc, il cherchait un développeur. Je lui ai dit, écoute, je te fais ton appli gratuite. Et en échange comme ça, moi, ça me fait une référence à mettre sur mon CV. Et donc, vu que je travaillais, j'allais vite m'acheter un sandwich et j'ai passé peut-être 4 mois entre midi et 2 sur un parking avec mon MacBook sur les genoux, le téléphone branché sur le côté, à coder entre midi et 2 dans ma bagnole pour essayer de faire cette application qui est sortie, qui m'a donné le premier boulot derrière. Donc finalement, ouais, faut rien lâcher, même si c'est les conditions sont pas idéales, si vous y croyez, normalement ça marche.
Cette application, elle a eu le succès voulu ou pas ?
Alors elle a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Pour le coup, lui, il avait fait une application, donc il n'avait pas coûté de sous à ce niveau-là. Derrière, il fallait quand même payer les infrastructures, les serveurs, l'hébergement, etc. Et donc, il était sur une solution à l'époque qui était payante. Et donc, les restaurateurs n'étaient pas du tout prêts à payer, même si c'était pas très cher par mois. Ils n'étaient pas prêts à payer pour avoir ce genre de service. Maintenant, c'est vrai que ça s'est démocratisé, ce genre de pratique. Mmh. Maintenant, ils voyaient pas l'intérêt de payer quelques dizaines d'euros par mois pour pouvoir mettre leur, leur menu dessus. Donc c'est dommage, elle n'a pas décollé. Elle avait tout ce qu'il faut pour le faire, mais après, ça a été surtout le côté pécunier qui a arrêté un peu la vie de cette application.
Merci pour cette anecdote. Si on reste un peu sur ton expérience, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton plus grand challenge jusqu'à aujourd'hui en tant que développeur iOS ?
Donc en tant que développeur, ça a été donc de changer de langage puisqu'il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'apprentissage. Donc j'ai commandé des bouquins aux États-Unis pour apprendre le langage Objective-C et pour me former tout seul. Donc ça, ça a été déjà un gros challenge. Et quelque part, ça va un peu avec cette continuité. Ça m'a donné une bonne base, entre guillemets, d'auto-formation en apprenant à faire les choses tout seul, en cherchant. Et là maintenant, entre guillemets, le plus gros challenge, c'est continuer à évoluer avec le langage, avec toutes les nouveautés qui sortent, voilà, tout ça, faut continuer, pour faire ce métier, faut garder une âme d'enfant et être toujours enthousiaste dès qu'il y a un nouveau truc qui sort. Je suis comme un gosse et je pense que ça m'aide beaucoup, mais c'est de plus en plus dur à garder avec l'âge qui avance.
Si, donc tu as été aussi lead développeur, tu as déjà piloté une équipe. Est-ce que tu peux nous donner ton astuce pour reconnaître un bon développeur iOS?
Pour moi, j'ai fait pas mal d'entretiens pour recruter des gens. Des développeurs qui connaissent le langage des compagnies, il y en a plein, plein, plein. Pour moi, ceux qui m'intéressent le plus, la plupart du temps, c'est ceux qui, comme je te disais juste avant, qui vont être curieux.
A contrario, quelles seraient les erreurs à ne pas commettre?
Les erreurs à ne pas commettre, alors mis à part les erreurs classiques de développeurs, et encore ça se voit de moins en moins, mais de pas forcément surveiller sa mémoire, de faire un code un peu sale ou ce genre de choses, moi je vois deux grandes catégories. La première, ça va être les développeurs qui s'enferment dans leurs habitudes, et puis ceux qui vont faire un code trop rigide.
Une autre question qui m'est souvent posée, est-ce qu'on peut générer des revenus avec une application gratuite ?
Bien sûr, c'est possible. Après, tout dépend de la quantité de revenus qu'on veut générer. Depuis plusieurs années, la grande mode quand même reste au freemium, notamment au niveau des jeux. Donc, le type de revenus que tu peux générer, ça va être avec de la publicité, principalement. C'est essentiellement le modèle économique d'Android, d'ailleurs. Les applications qui sont payantes sous iOS ou les jeux sont souvent gratuits sur Android. Et par contre, il y a des tonnes de pubs derrière pour arriver à renflouer entre guillemets le développement, puisque le bon développement ça coûte cher, c'est pas anodin, donc faut quand même rentrer dans son argent, ce qui est normal quoi. Donc à un moment faut bien payer d'une façon ou d'une autre. Ensuite on va avoir des achats in-app. L'achat in-app classique qu'on va avoir sur iOS, c'est l'achat in-app qui permet de supprimer la pub. Du coup comme quoi c'est bien, les deux vont bien ensemble. Et puis après tu vas avoir l'abonnement. Dans le cas d'un, tu peux proposer une application gratuite qui va fournir un service, et puis pour avoir ce service, tu fais un abonnement. C'est ce qui se fait de plus en plus. Voilà.
Pour toi, du coup, si on veut un petit peu clôturer cet échange, quel est l'avenir des applications dans un monde digital qui évolue constamment ?
L'avenir des applications, moi, pour moi, il est tout simplement énorme. Je suis bien content d'avoir pris ce virage assez tôt, justement. On a de plus en plus de personnes qui ont des smartphones. Il y en a même maintenant qui ont des smartphones et des tablettes et qui ont plus d'ordinateurs, qui font tout sur des appareils mobiles. Et on voit bien là, avec la, notamment voilà, avec la crise sanitaire, la pandémie, on va avoir des systèmes de QR code que tu vas flasher pour dire que tu as été à tel endroit, pour un peu suivre l'évolution de la maladie, de dire que tu as ton pass sanitaire dessus. On est dans un monde tout le temps connecté, donc pour le coup, je pense que le développement mobile, c'est vraiment un développement, pas le développement du futur, mais quasiment quoi. Il va avoir encore beaucoup de boulot pendant beaucoup d'années dans ce branche là quoi. Donc venez chez nous.
Merci beaucoup Jérôme.
Merci à toi.
Merci à ceux qui nous écoutent aussi. Maintenant, je pense que vous êtes presque un collab sur la création d'une application. Et si vous aussi, vous avez envie d'avoir la vôtre et de bénéficier de l'expertise Caïman si vous avez envie de travailler aussi avec Jérôme, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web et on pourra monter le projet ensemble ou recréer une application qui vous ressemble.
Coupé!